Allô?
Bonjour, Claire Duvivier, David Malmans à Appareil, éditeur aux
Salut David.
éditions Aux Forges de Vulcain. Et comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Très bien, très bien. Alors, à la faveur du confinement, j'appelle les autrices et les auteurs des Forges je leur propose de parler lecture, enfin de leur lecture, pas des miennes, même si étant bavard, j'ai tendance à intervenir. Nous sommes le 15 avril 2020, c'est l'après-midi. Est-ce que tu es partante pour cet exercice?
Je suis partante.
Alors, Claire, je ne dis jamais à l'avance quelles questions je vais évoquer avec les auteurs ou les autrices. Je te connais depuis quelques années comme éditrice, et en fait, je connaissais pas tes goûts personnels, et quand j'ai reçu le manuscrit de ton roman Un long voyage, j'étais très étonné parce que c'est un roman de fantasy. Et en fait, je ne te savais pas vraiment lectrice de fantasy, mais je me suis souvenu qu'il y a quelques années, tu m'avais dit que tu avais fait un stage il y a très très longtemps chez De Noël, qui est le grand éditeur, un des grands éditeurs de science-fiction en France. Et donc, ce que je te propose, c'est de parler de science-fiction.
Eh bien, volontiers, volontiers.
voilà. Et en fait, moi, j'ai une question, c'est que souvent la science-fiction, c'est un genre qui est ancien maintenant, et donc c'est un genre qui a aussi ses classiques. Et dans ta bibliothèque, quels sont les classiques de la science-fiction que tu chéris particulièrement?
Ouh là là. Alors, j'ai la chance, il se trouve que j'ai profité du début du confinement pour ranger ma bibliothèque.
À toi aussi.
Donc, du coup, j'ai un souvenir à peu près frais de tout ce que j'ai pu mettre dans le rayon imaginaire. Après, c'est vrai que je suis peut-être pas très originale en ça, mais effectivement, en classique de la SF que j'ai pu lire quand j'étais ado, au début de ma vingtaine, on trouve Frank Herbert, on trouve Dan Simmons, on trouve Michael Moorcock, des auteurs comme ça, en fait. Oui.
Ah, une
Sur
petite
le tout, ça
tendance
doit être ça.
épique quand même. Parce que
Oui, assez, oui.
c'est aussi très révélateur, parce que tu as des lecteurs de SF qui vont. Donc tu as cité Frank Herbert qui est l'auteur de Dune, Dan Simmons qui est connu pour Hyperion notamment, entre autres.
Oui, c'est surtout Hyperion. J'ai lu un petit peu ses récits après, surtout quand il est un peu versé dans une veine horrifique, un peu Stephen King. Enfin, il y a vraiment des très bons titres aussi. Mais j'avoue, je suis plus attachée à ce qu'il faisait en SF il y a assez longtemps, quoi.
Ouais, mais c'est ça qui. Tu vois, il y a des lecteurs, lectrices de SF qui, à cette question, vont répondre Asimov, Arthur C. Clarke, et donc ça fait quand même des lecteurs très différents. C'est-à-dire, c'est pas les mêmes
Ah, mais c'est vrai
plaisirs.
que Arthur C. Clarke, c'est là que j'ai mis un pied dans la science-fiction pour la première fois, c'est en piquant Arthur C. Clarke à mon père.
D'accord.
Effectivement, mais là, c'est vraiment les balbutiements, on va dire, c'est la première entrée dans la science-fiction. Et
Et c'est quel
Asimov
texte?
aussi, je l'ai lu, après, je peux pas dire que je sois complètement attachée, c'est quand même assez vieilli. Enfin, je préférerais à la rigueur relire du Ray Bradbury plutôt que du Asimov, par exemple.
Oui, je pense qu'il y a une poésie, une créativité chez Bradbury qui. Alors, il
Voilà.
y a d'autres qualités chez Asimov, mais c'est un peu plus pulp dans mon souvenir Asimov. Et un peu plus. Il y a beaucoup de nouvelles à chute chez Asimov, c'est-à-dire où il y a une sorte de révélation finale sur un twist technique ou un truc comme ça. Mais alors, Arthur C. Clarke, quel est le premier texte d'Arthur C. Clarke que tu as lu? Ou les premiers textes?
Moi, c'était les rendez-vous avec Rama, en fait, donc
Ah
j'ai
oui.
le souvenir le plus fort. Après, le souvenir le plus fort, c'est beaucoup dire, parce que c'est des lectures qui datent. Mais oui, ouais, je dirais que c'est un peu la première rencontre avec le Sense of Wonder.
Alors oui, Rencontre avec Rama, c'est une quadrilogie dont le premier titre a été écrit par Arthur C. Clarke tout seul, et puis après les trois qu'ont suivi, le 2,
Les
3,
suivants
4.
sont objectivement moins bons aussi,
Ah.
mais
Et ça dépend, parce que je pense que dans le premier, il y a un vrai côté hard SF qui est très. Moi, c'est aussi une de mes lectures anciennes, mais qui avait beaucoup marqué. Dans le premier, il y a un côté hard SF très très impressionnant, vraiment où on se dit, il touche du doigt ce qui pourrait se passer dans nos têtes quand on sera en contact avec une intelligence extraterrestre complètement différente. Et les 2, 3, 4 n'ont pas cet effet-là, mais je trouve qu'il y a un côté mélo et humain dans le 2, 3, 4 qui, bon, par moment est moins bon, enfin, par moment c'est attachant. Enfin bon,
Oui, mais
moi
il y a une
j'avais bien
certaine
aimé.
dimension qui est plus large, qui est sur le vivre ensemble dans l'espace, la colonisation de ce vaisseau, comment ça se passe. Enfin, voilà, il y a effectivement quelque chose d'un peu plus vaste que juste la rencontre avec une créature, une intelligence artificielle difficile à comprendre. Effectivement, c'était pas tout à fait la même thématique.
Ouais. Mais alors, donc, toi, quand tu voulais être éditrice, tu voulais travailler en science-fiction ou c'est un concours de circonstances qui a fait que tu es passé par De Noël?
Pas forcément. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'édition, j'ai travaillé dans l'édition médicale, donc pas du tout dans l'édition littéraire,
D'accord.
ce qui était très formateur. J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'au bout d'un temps, ça me manquait un peu finalement la fiction. Et c'est là que j'ai commencé à voir comment me réorienter vers des domaines littéraires qui me plaisaient plus. Et effectivement, j'avais pensé à l'imaginaire parce que j'étais lectrice d'imaginaire. C'est comme ça que je me suis retrouvée du coup chez De Noël. D'autant que Lune d'encre, donc j'étais la stagiaire de Gilles Dumay, Lune d'encre c'est une collection qui a quand même fait date, et
Oui.
effectivement ça a été une bonne transition vers la littérature.
Et alors, est-ce que moi, ça me frappe souvent quand je discute avec des gens du stage qu'ils ont pu faire dans une maison d'édition, c'est souvent pour eux, c'est l'occasion de rencontrer un auteur sur lequel ils vont particulièrement travailler. Comme en fait, on ne travaille jamais quand on est simple lecteur sur un auteur. Est-ce que toi, il y a une autrice ou un auteur que tu as particulièrement découvert lors de ce stage?
Oui, parce que lors de ce stage, c'était l'occasion de rencontrer Christophe Aprest,
Ah
que je
oui.
commençais tout juste à lire à l'époque. Et effectivement, ça avait été une rencontre très intéressante. J'ai revu 2, 3 fois depuis. Je pense pas qu'il se rappelle vraiment de moi, mais effectivement, pour moi, ça avait vraiment été très enrichissant comme rencontre. C'était à l'époque, peu de temps avant ou peu de temps après, je ne sais plus, la sortie de l'Archipel du Rêve, qui reste un des livres préférés de lui d'ailleurs. De toute façon, tous ces livres qui traitent de cet archipel sont mes préférés dans l'œuvre de Priest. Donc oui, en ça, effectivement, ça a été une rencontre plutôt importante.
Alors, tu vois, il y a beaucoup de nos auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices qui ne connaissent pas bien Christopher Priest. Moi, par exemple, Christopher Priest, j'ai découvert d'une manière très, très détournée, en fait. C'est parce que j'aimais beaucoup le cinéma de Nolan, et c'est le film Le Prestige qui m'y a fait penser, parce que en voyant Le Prestige, je me suis dit, tiens, c'est adapté
Très
d'un roman,
bien.
ça doit être un bon roman, en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert Christopher Priest. Mais donc, tu vois que mes connaissances sur Christopher Priest sont assez succinctes. On m'a offert tous les livres de Priest, mais malheureusement, j'ai pas pris le temps de les lire. Donc, il faudrait que je le fasse. Mais donc, justement, si tu veux, pour nos lecteurs, lectrices, et pour moi, me parler un peu, c'est quoi tes textes préférés, de quoi parle-t-il, pourquoi il faut les lire?
Alors, comme je sais votre bibliothèque, j'en profite pour ouvrir Le Monde Inverti, aussi un texte assez important de Priest. La première phrase, c'est tout simplement j'avais atteint l'âge de 1000 km. Voilà, donc moi, je modifie quiconque de ne pas vouloir lire la suite après une entrée en matière comme ça. Effectivement, bah, je parlais très rapidement tout à l'heure des Sense of Wonder. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a dans les romans de Christopher Priest, sans qu'il y ait besoin de vaisseaux spatiaux ou de civilisations extraterrestres ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'étrangeté qui est là, qui est dans la narration, qui est dans l'univers dépeint. Donc c'est le cas dans Le Monde Inverti, dont je viens de lire la première page, dans l'archipel du rêve, donc qui se passe sur un archipel qu'on retrouve dans pas mal de romans de Christopher Priest. Un archipel, effectivement, on ne sait pas si on est vraiment dans. Enfin, c'est un monde qui est très proche du nôtre, mais en même temps très différent. On sent que la technologie est quand même assez avancée, mais il y a une guerre qui fait rage sans cesse, sans qu'on sache exactement qui sont les belligérants. Il y a des espèces de ruptures de réalité entre certaines villes, des choses comme ça. C'est un univers qu'on peut explorer vraiment sans cesse, hein, de roman en roman. Donc, je conseille du coup l'archipel du rêve, donc il y a un recueil de nouvelles, mais aussi. Le roman, on va appeler ça un roman, qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle en français, c'est The Islanders en anglais, qui se présente comme un guide de voyage de cet archipel, où on détaille différentes îles. Au fur et à mesure qu'on détaille, façon guide de voyage des différentes îles, une intrigue naît, et c'est vraiment, vraiment très bien fait, c'est assez éblouissant.
D'accord.
Donc,
Écoute,
ouais, je conseillerais cela. Et sinon, oui, le prestige, c'est une bonne autre matière. Alors, bon, malheureusement, si vous avez vu le film, c'est un peu problématique parce que du coup, la révélation finale tombe un peu à plat. Mais sinon, il y a la séparation aussi. Là aussi, il explore un thème qui est assez fréquent chez Christopher Priest, qui est le thème du double. Voilà, c'est un autre roman. Là, pour le coup, on est plus dans la Seconde Guerre mondiale. Après, j'ai lu à l'époque de sa sortie, je ne l'ai pas relu depuis, donc je n'ai pas trop m'aventurer dans un résumé, mais c'est un excellent roman également.
D'accord. Alors là, tu me dis, tu es devant ta bibliothèque?
Oui, je fais
Alors,
des 100 pas en fait.
d'accord.
Je n'arrive pas à rester assise quand je suis au téléphone.
Mais c'est très bien. C'est tout l'intérêt en fait de passer par les téléphones portables et pas une vraie émission radio. Parce que moi, j'ai toujours peur dans les émissions de radio de faire un mouvement et voilà, il faut surtout bien rester face au micro. Le micro ne bouge pas et voilà. Donc autant en profiter, autant profiter des circonstances du confinement. Alors, mais bah, puisque tu es devant ta bibliothèque, tu classes comment tes livres? Ah, c'est la vraie
Alors,
question, hein. Moi, alors, je te dis un
ça
truc, c'est que
dépend de la
moi.
pochette ou l'autre bibliothèque.
Non, mais tu vois, depuis que je suis éditeur, je fais un truc très bizarre, c'est que je les classe par éditeur, mes livres. Parce que c'est plus facile pour moi de mémoriser et de savoir où ils sont. Donc je classe par éditeur, puis par collection. Mais j'ai
Oui,
déjà
moi
rencontré un
aussi.
copain qui les classe par couleur, en fait. Et il
Ah
m'a dit, c'est
oui.
beaucoup plus joli, et de toute façon, il sait où ils sont, donc voilà.
Mais en rangeant par collection, finalement, il se retrouve plus ou moins classé par couleur aussi. Donc, enfin, pas
Alors,
toujours, mais.
quand c'est des collections qui ont une forte identité graphique, là devant moi,
Voilà.
j'y avais jamais pensé, mais c'était une évidence. Chez Gallimard, l'imaginaire est tel, en fait, c'est le même façonnage, en fait. C'est exactement la même taille, c'est exactement, enfin, il y a beaucoup de points communs entre ces deux collections. Je les ai mises l'une à côté de l'autre, ça fait très étrange, ça donne l'impression que j'ai une immense collection telle, alors qu'en fait, c'est telle plus l'imaginaire. Bon, donc comment, toi, tu classes aussi par éditeur?
Oui, c'est généralement quand même regroupé par éditeur, sauf dans le cas de quelques auteurs un peu taquins qui publient chez différents éditeurs, auquel cas ça m'arrive de casser un peu cette classification. On va dire qu'à chaque fois c'est l'occasion de choix sibyllins et de dilemmes immémoriaux. Mais effectivement, c'est plus souvent par éditeur.
D'accord.
Mais par
Alors,
taille aussi, parce que par rapport à la hauteur des étagères, mais ça c'est des contraintes un peu physiques, ça.
dis-moi, quel est l'éditeur de romans grand format le plus représenté chez toi?
Voyons voir. Alors, il y en a un, mais je travaille pour lui, donc il y a beaucoup de romans fans, effectivement. De ce que je regarde, il y a beaucoup de lunes d'encre. Il y a pas mal de Diable Vauvert. Il y a pas mal de Forges. Un peu de tout,
Oui,
quand même. Il y a pas
après.
mal de livres anglais aussi, donc d'éditeurs variés. Il y a des Alma aussi, je vois une bulle d'Alma ici. Sinon, voilà les dernières gouttes, voilà les moutons électriques, Dystopia. Je pense que personne n'a la part du lion. C'est assez varié.
Ah, écoute, moi j'ai été très étonné en rangeant ma bibliothèque. Je me suis rendu compte qu'en grand format, l'éditeur dont j'ai le plus de titres, c'était POL.
Oui.
Alors, mais je pense que c'est un éditeur qu'on m'offre beaucoup. Et puis j'aime beaucoup Martin Winkler, donc je me suis rendu compte que certains des Martin Winkler, je les ai en 3 ou 4 exemplaires. Donc c'est sûr que ça fait grossir d'un seul coup le catalogue. Alors, on va le faire si t'es devant Lune d'encre, en écartant Christopher Priest, est-ce que. Il y a des textes qui particulièrement t'ont marqué sur les dernières années chez Lune d'encre.
Alors, sur les dernières années chez Lune d'encre,
Ou même il y a longtemps, hein.
J'ai beaucoup aimé. Oh là là, oui. Il y a beaucoup de rééditions. Ah, mais il y a un titre dont j'aimerais vraiment parler. C'est un recueil de nouvelles extraordinaire de Ted Chiang qui s'appelle La Tour de Babylone.
Ah oui.
Hop, je le prends. C'est fantastique. C'est vraiment un recueil incroyable. Toutes les nouvelles sont formidables. Il y a une nouvelle en particulier, L'histoire de ta vie, qui a été adaptée au cinéma. Assez bien d'ailleurs. Le problème, c'est que je ne me souviens ni du nom du film, ni du réalisateur. Donc,
C'est The Arrival par
voilà, ouais.
Denis Villeneuve
Voilà, Denis Villeneuve, bah, qui
qui
va faire Dune, là.
voilà. Pour
Et
la petite
effectivement, cette
histoire, je
nouvelle, à la
l'ai.
lecture, elle est incroyable.
Ouais, non mais je l'ai lu. C'est pour la petite histoire, c'est Francis Guévremont, le traducteur des Forges, qui me l'avait prêté en anglais, qui m'avait dit qu'il fallait absolument lire ça. Et c'est vrai que voilà. Et en plus, j'y pense ces jours-ci parce que côté Forges, je travaille sur le nouveau le volume de Charles Yu. Et je me suis rendu compte qu'il y a une vogue des auteurs asiano-américaines en fantasy SF aux États-Unis, notamment avec David Chiang, Ken Liu et Charles Yu. Mais oui, mais David Chiang, il y a autre chose qui a été traduit que de son
Là, c'est
prénom.
Ted Chiang.
Ted Chiang.
Alors,
Et David Chiang,
c'est
c'est un acteur de kung-fu. Voilà.
D'accord.
Donc, Ted Chiang.
Il semble qu'il y a un autre recueil de nouvelles qui doit arriver, ou qui est arrivé, ou qui est en voie d'arriver. Mais je crois que c'est un auteur très rare. Il doit écrire une nouvelle par an, quelque chose comme ça. Et du coup, forcément, bah, les recueils arrivent lentement. Mais il me semble que normalement, il y en a un deuxième qui doit venir.
Attends, j'y pense, toi, tu as lu la trilogie mince, Le problème à trois corps?
Non, je ne l'ai pas lu.
D'accord. Bon, ça pourrait t'amuser. Donc, Le problème à trois corps chez Actes Sud. Alors, pour le coup, traduit du chinois de Liu Xingxin. Je ne sais pas comment on prononce proprement. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que tu as chez un autre éditeur? Voilà. De quoi veux-tu nous parler maintenant que tu es face à ta bibliothèque?
Une fois face à ma bibliothèque, alors une autrice que j'ai découvert plus récemment et que j'aime vraiment énormément, j'ai tout lu sauf un roman que je devais m'acheter avant le confinement, j'ai pas pris le temps, bon, ça attendra mon retour, c'est Nina Allan,
Ah oui.
Qui a sorti à la rentrée littéraire dernière La Fracture, enfin qui a sorti, c'est sorti chez Tristram, hein, qui a publié tous ses romans. Qui est vraiment extraordinaire. Après, moi, j'ai préféré encore La Course, celui d'avant. Bon, il y a quelques rapprochements thématiques intéressants à faire sur Christopher Priest, notamment peut-être dû au fait qu'ils doivent s'enflorer mutuellement, vu qu'ils sont mari et femme, je crois. Ouais. Et effectivement, c'est assez extraordinaire. On est vraiment à la frontière de tout, à la frontière de la science-fiction, du fantastique, du roman réaliste. On est sur la métafiction, mais c'est vraiment ébouriffant, ça donne le vertige. C'est assez difficile à résumer, du coup, surtout qu'en plus, tous ces romans sont vraiment très différents. Pour rentrer dans son monde, moi, je serais tendance à conseiller son recueil de nouvelles, Complications, enfin, après, c'est difficile de parler d'un recueil de nouvelles, c'est peut-être un roman, en fait. Par le biais d'histoires qui se répondent d'une façon assez étrange, hein, on sent qu'on a affaire non pas à un recueil de nouvelles, mais à ce qu'on appelle les complications d'une montre, donc les mécanismes d'une montre, en fait, tout fonctionne ensemble. C'est vraiment virtuose. Donc ça, c'est vraiment une maîtrise que je recommande. De quoi je pourrais parler également. Après, dans les lectures vraiment récentes, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas forcément de la SF, parce que je lis un peu à gauche et à droite, en fait, donc...
C'est vrai que toi, tu as aussi édité des textes qui lorgnent vers la littérature noire. Alors moi, justement, je lis pas vraiment pas beaucoup de littérature noire, alors que ces jours-ci, les forges vont se déployer dans cette direction, mais par des concours de circonstances, parce que on publie Adrien Pochet, il y a Michel Astrude qui a fait un texte un peu plus noir, même s'il avait déjà fait des textes un peu noirs. Voilà, est-ce que toi, tu aurais des recommandations de littérature noire, des textes qui t'auraient vraiment marqué?
Au moment où tu me dis ça, j'ai mon regard qui se pose sur un livre qui a l'intérêt d'être à l'intersection entre la science-fiction et le noir.
Oui.
Donc, effectivement, c'est pas une lecture récente, par contre, mais comme je l'ai sous les yeux, j'en
vas-y,
profite.
Vas-y.
C'est The City and the City de China Mieville.
Ah oui.
Alors, c'est noir, effectivement, c'est une enquête sur un meurtre. Sur un meurtre qui se passe un peu autour d'une frontière. Donc, on sent qu'une personne, une femme, a été assassinée, on a trouvé son corps. La lecture remonte un peu, donc désolé si c'est un peu confus. Mais effectivement, on sent qu'elle n'est pas morte là. Son corps a été transporté, on lui a fait passer la frontière. Donc voilà, il y a tout un mystère autour de ça. Sauf que cette frontière, elle est située au sein d'une ville. Et enfin, de deux villes plutôt, elle sépare deux villes qui sont l'une sur l'autre en fait. C'est-à-dire que c'est deux villes qui coexistent dans le même espace géographique, mais qui sont distinctes parce que leurs habitants s'ignorent les uns les autres.
Ouais. Il y a eu une adaptation en série télé et en fait que je n'ai pas, qui est sortie il y a 2 ans, qui est passée complètement inaperçue. Et en fait, je m'étais dit qu'il faut surtout pas la regarder avant d'avoir lu le livre. Alors, parce que China Melville, c'est un auteur, c'est bien un homme.
Oui, c'est un
oui.
Nom, ouais.
C'est, oui, je crois que j'ai vu une photo d'un homme chauve à une époque. Et en fait, c'est un auteur très très réputé, mais effectivement, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le lire pour l'instant. Donc.
Ah ben je te conseille vraiment The City and the City parce qu'effectivement il y a vraiment toute cette intrigue qui est très polar, très classique parce que c'est vraiment l'enquête sur l'itinéraire d'un porc, sur une étrangère qui a été tuée. Dans... Sauf que justement tout est passé au moulin de cette situation hyper particulière qui met en situation deux villes en friction finalement l'une en présence de l'autre. C'est vraiment très très étonnant. J'en avais un très très bon souvenir vraiment. Alors du coup je cherche maintenant. Un roman noir qui m'aurait époustouflé, ça m'arrive assez souvent, mais
Tu as le droit de citer un texte d'asphalte si tu as un texte d'asphalte sous les yeux. Hein,
Bah non, c'est trop facile.
c'est vrai. C'est vrai que moi, quand on me demande de recommander un très bon livre, généralement j'évite de recommander un livre des éditions Forges de Vulcain, même si je pense qu'ils sont tous très 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 bons. Mais c'est toujours délicat de recommander directement ses propres livres.
Je rends qu'il est un peu noir que j'ai lu récemment. Après, est-ce que c'est vraiment un roman noir? Je ne sais pas. C'était un peu dans ma liste de lecture au début du confinement. Effectivement, je ne vais pas dire que je l'ai dévoré parce que je lis assez lentement en ce moment, mais c'est La Septième Croix d'Anna Seghers. Alors, parce que j'étais en train de regarder la partie métallier de ma bibliothèque, donc je suis tombée dessus. Effectivement, ce n'est pas du tout un roman noir en fait. Mais c'est un très bon roman sur une évasion en fait d'un camp. Dans l'Allemagne hitlérienne, en fait, dans les années 30, donc un camp qui était destiné aux prisonniers politiques. Et c'est l'histoire de sept évadés donc qui s'évadent de ce camp, qui vont être repris un par un. En gros, c'est les différents itinéraires de ces évadés, leurs rencontres avec des villageois, du village autour du camp, la défense en ville, la traque qui se met en place. C'est vraiment... Oui, c'est pas un roman noir, mais il y a un côté qui est, on va dire, un peu comme un thriller. Donc, effectivement, on suit un peu à bout de souffle l'itinéraire de ces personnages-là. C'est très, enfin, c'est vraiment bourré d'humanité en plus. C'est un très bon roman que je conseille.
C'est vrai qu'il y a une maison d'édition qu'on n'a pas citée, mais je pense que tu as peut-être pas mal de volumes chez toi d'elle, et moi je me rends compte que je suis moi aussi devant la bibliothèque que j'en ai pas mal, c'est Métellier. Et
Oui, ouais.
alors, corrige-moi, mais il y a très longtemps, je me demande si j'ai pas lu un entretien de vous deux, parce que vous êtes deux à avoir fondé Asphalte, où vous parliez de transfiction. Et moi ça avait
C'était un
marqué parce
terme
que.
très à la mode à une époque.
C'était à la mode il y a presque une dizaine d'années, mais en fait,
Ben ouais, je pense que cette interview devait dater des débuts d'Asphalte.
ouais.
Ouais.
Mais pour moi, c'est frappant, c'est que c'est un terme qui était un terme très utilisé professionnellement, mais finalement qui a pas essaimé en dehors des cercles professionnels de l'édition. Mais je pense que ça mettait le doigt sur quelque chose d'esthétiquement très vrai, très juste, et qui est maintenant quelque chose qui s'est beaucoup développé. Alors, est-ce que tu as le souvenir de ce qu'était la
Oui.
transfiction? Et je dis ça parce
Je,
que,
je...
pour moi, le catalogue Métellier est un catalogue très
Oui.
transfictionnel, en fait.
Ben je prends justement l'essai de Francis Berthelot qu'il avait publié chez Full ESS, qui s'appelait Bibliothèque de l'Entremonde, guide des lectures des transfictions, en fait. Et effectivement, il me semble qu'on avait vraiment, que ça avait un peu fait passer ce terme dans on va dire dans le langage professionnel courant, on va dire. Effectivement, c'était une très très bonne sélection. Oui, mais tout à fait pour Métellier, bah, notamment il y a les romans de Rosa Montero qui sont vraiment à l'intersection du polar et du cyberpunk en fait, avec en hommage en plus à Blade Runner, avec cette réplicante qui enquête. Et puis aussi beaucoup de romans qui sont toujours à la frontière entre la littérature et la littérature noire. C'est aussi le fait, je pense, de publier beaucoup d'auteurs hispanophones, latino-américains, où pour le coup, il y a quand même pas mal de mélange de genres dans cette littérature-là. Enfin, de mélange des genres. Disons qu'on s'embarrasse moins des étiquettes. Donc forcément,
Oui,
c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe.
c'est ça qui est assez frappant, c'est que je pense que nous, ce qui peut nous obséder en tant qu'éditrice, éditeur, c'est le fait que on est conscient du fait que le découpage éditorial, ça crée des angles morts de
Tout à fait.
création. Et je pense que malheureusement, beaucoup de gens l'oublient. Et souvent, parfois, je suis étonné, en discutant avec des auteurs-autrices qui ne sont pas du tout dans l'édition, c'est qu'ils ont l'impression, ils ne perçoivent pas du tout les conditionnements qu'ont créé l'édition. Et l'intérêt, je pense qu'il y a deux intérêts de travailler chez les éditeurs-éditrices qui écrivent aussi, c'est à la fois la très grande précision qu'ils ont, c'est quelque chose que Toni Morrison, qui a été éditrice avant d'être romancière, soulignait. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils sont conscients du fait que l'édition, le processus éditorial n'est pas un processus transparent, c'est un processus qui va modifier à l'aller, mais aussi au retour, c'est-à-dire par les lectures qu'on propose, ça change ce que les gens écrivent, quoi.
Sachant que c'est quand même difficile de faire bouger certaines parois, on va dire, parce qu'il
Oui.
bah, y a quand même une production qui est assez énorme, et effectivement, briser certains murs ne se fait pas aussi facilement que ça. Il faut qu'il y ait quand même une certaine production pour que finalement, les défenses se baissent par rapport à tel ou tel genre, quoi. Enfin, je sais que maintenant, par exemple, tout ce qui est polar et roman noir, on trouve assez facilement en littérature générale, ce qui n'était pas le cas à une époque. Maintenant, de plus en plus, pour les romans de littérature dite générale, pareil, il y a des éléments d'imaginaire. Est-ce que du coup, ouais, voilà, est-ce que la communication se fait dans le sens aussi, ou est-ce que du coup les rayons purement genre, polar et SF, sont un peu condamnés à du coup rester sur des schémas plus normatifs, on va dire, plus écrits, plus attendus? C'est une interrogation. Moi, je pense que faire péter les cloisons entre les étagères, c'est très très bien, mais effectivement, ça peut être moins pratique après pour guider le lecteur en librairie ou en
Oui, c'est
bibliothèque.
ça. Oui, c'est important d'avoir un peu ses repères hein, pour s'y retrouver. Moi, finalement, si j'ai classé ma bibliothèque personnelle comme ça, c'est aussi parce que c'est un moyen de s'y retrouver, de savoir que dans tel endroit, il y a des essais, tel endroit, il y a tel type de fiction, tel endroit, il y a tel autre type de fiction. Donc, je peux tout à fait imaginer qu'effectivement, même pour les lecteurs qui sont des gros lecteurs, ils ont besoin d'une forme de système d'orientation. Mais c'est vrai qu'il faut rester conscient du fait que le système d'orientation, ça aussi a un impact sur ce qu'on écrit.
Voilà. Et puis je pense aussi que les catégories, souvent, c'est justement à force de vouloir absolument coller à une catégorie bien précise de fantasy ou je sais pas quoi, ou de polar, qui empêche un petit peu de décloisonner et qui malheureusement a tendance à uniformiser certaines productions, quoi. Alors que justement, je pense qu'il faut essayer de varier le plus possible, piocher à gauche, à droite, lire de tout. Enfin, c'est pas quelque chose que je professe assez, le côté curieux et versatile dans les lectures, mais
Oui, parce que je
après,
pense
il
en
peut
fait,
être aussi.
moi
Vas-y.
moi je me souviens, j'ai fait mon DEA sur Thomas Kuhn, qui était un historien des sciences, et il étudiait un phénomène assez intéressant, c'est de se dire que les révolutions scientifiques dans un domaine scientifique sont toujours faites par des scientifiques, donc pas par des béotiens ou des chercheurs indépendants, mais des scientifiques qui viennent d'autres disciplines en fait. Et donc c'est intéressant de se dire que en venant d'une autre discipline, on a une certaine une discipline, mais en fait on a un regard un peu neuf. Donc par exemple, toi avec ton roman Un long voyage, tu révolutionnes la fantaisie, mais depuis tout à
Oui,
l'heure on n'a pas
certainement.
parlé fantaisie à proprement parler. D'ailleurs, il y a une lectrice qui a dit que c'était de la fantaisie quantique. Je pense que c'était parce qu'elle a repéré qu'il y a effectivement un élément qui fait un peu SF mais qui passe très bien en fait. Mais il y a un élément de ton roman qui fait un peu SF. Bah alors, pour aller pile contre ce que tu viens de dire, l'hybridation, depuis le début, on n'a pas parlé fantaisie. Est-ce que dans ta bibliothèque, il y a des ouvrages de fantaisie?
Il y en a. Après, c'est vrai que j'en lisais moins que de la science-fiction. Je regarde un peu, effectivement, c'est lecture de jeunesse, mais j'avais beaucoup aimé Le siècle des printemps, de Delasny, des choses comme ça. Mais après, j'ai jamais été très fan de grands cycles, type Robin Hobb ou des choses comme ça. C'est moins ma tasse de thé, en fait. Aussi parce que je me lasse assez vite, en fait, en lisant un cycle
Attends, mais
de
cela dit,
quelques
tout à
volumes,
l'heure,
ça me tombe
tu as
dedans.
parlé de Moorcock.
C'est
Tu as
vrai,
eu
ouais, oui.
une période Moorcock, mais qui.
J'ai une
D'ailleurs.
période Moorcock, mais après, j'ai pas lu l'intégrale d'Elric non plus, quoi.
Ouais. Mais souvent, Elric, je me souviens, moi, quand je l'avais lu, c'était dans les années 90, à l'époque où l'ASF dominait l'imaginaire, donc c'était pas la fantasy qui dominait, et c'était vraiment présenté comme des textes de SF, parce qu'il y a une partie de l'œuvre d'Elric qui ressemble à de la fantasy, mais se passe dans une sorte de futur lointain, où on devine que c'est un futur lointain. Ça fait, je crois, presque 30 ans que j'ai pas lu Moorcock. Donc.
Oui, non, mais moi aussi, ça fait longtemps, donc faut que je me souvienne, mais il me semble bien qu'effectivement, son œuvre s'unifie dans une sorte d'univers partagé qui est à la fois fantasy, SF, avec le mythe du champion éternel, ou quelque chose comme ça. Enfin,
Oui, c'est ça.
j'avoue, c'est assez ancien, mais effectivement, il me semble qu'il a trouvé un moyen d'unifier son œuvre sous ce principe-là, quoi. Donc, Mais effectivement, il y avait aussi quelques œuvres SF qui sont peut-être pas dans ce cycle-là, mais là, il y avait une petite trilogie steampunk qui était assez sympathique, et puis des œuvres un peu plus inclassables, voilà, que j'ai lues après, du coup, genre Mother London, par exemple, qui est un roman qui m'avait vraiment beaucoup marqué, je le prends, où là, effectivement, on est, dès le quatrième de couverture, on annonce une transfiction, par exemple, donc c'est te dire qu'à cette époque, c'était le terme à la mode. Oui, c'est typiquement, effectivement, la transfiction type. C'est vraiment à la fois histoire parallèle de Londres, fantastique. Ouais, c'est non, je pense qu'il touchait vraiment à tout, en fait, Moorcock, hein.
Et alors, je me disais, il faut quand même qu'on parle un peu de littérature générale. Et je me souviens que toi et moi, on a une fois été invités à parler sur CNews, je crois, de nos lectures à l'approche de l'été. Et tu as cité parmi tes lectures un auteur qui est très important, qui est un auteur qui est un peu un secret que les bons lecteurs se partagent. Et j'aimerais bien qu'on parle de lui, c'est Maurice Ponce.
Oui, j'avais parlé de Maurice Ponce. Oh
Tu
là
avais
là, je
parlé
me
de
souvenais
Maurice
même
Ponce, mais
plus.
tu n'avais pas. Alors, on avait été étonnés parce que on avait été invité à la va-vite parce que la personne qui était invitée ne pouvait pas venir. Donc, le mercredi soir à 17h, on reçoit un coup de fil nous demandant est-ce qu'on veut se pointer à 6h du matin le lendemain chez CNews. Et en fait, on avait l'impression que la journaliste n'était pas du tout une journaliste littérature. Donc, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit lectrice. Et en fait, quand tu as mentionné Maurice Ponce, elle a dit oh, oui, Maurice Ponce, l'auteur des Saisons. Voilà. Saisons, c'est le livre peut-être le plus connu de Maurice Ponce. Mais toi, tu nous as présenté un autre livre de Maurice Ponce. Est-ce que tu t'en souviens? En nous disant, attention, c'est très différent des Saisons.
Mais heureusement que je me rappelle, parce que j'allais dire, moi, les Maurice Ponce, je ne connais que les saisons, mais non, mais en fait, j'avais parlé du passager de la nuit, je crois.
Voilà.
Alors, je retrouve le titre, oui, tout à fait, c'est le passager de la nuit. Ah ouais, c'était un roman extraordinaire, ça, ouais, qui parlait de la guerre d'Algérie à travers
Je m'en
cette
souviens très
espèce
bien.
de d'errance d'un homme qui prend en autostop, il me semble, un inconnu, et qui fait un boudron d'ensemble, et en fait. Il va se rendre compte que ce type est louche, que on est la France est sous la menace d'attentats à cette époque-là. C'est un roman extraordinaire et complètement différent des saisons pour le coup. Hein.
Moi, je l'ai
C'est un
lu
autre
sur ton
monde.
conseil, et effectivement, c'était une fantastique lecture. Mais par contre, c'est étrange, c'est que Maurice Ponce, il m'arrive souvent de relire, mais je n'ai lu que deux romans, et il faut que j'aille chercher ce qu'il a écrit d'autre, en fait.
Mais en plus, il paraît qu'il y a plein de romans extraordinaires de Maurice Ponce qui effectivement. Un auteur qui est peu republié, mais effectivement, je n'ai lu que Le Passager de la Nuit et Les Saisons, qui en plus est un roman vraiment très très important pour moi, que j'aime beaucoup, quoi. Donc, mais sachant déjà à quel point sont différents ces deux romans-là, oui, il faudrait un peu que j'aie la curiosité d'aller voir les autres, parce que je pense que je suis en train de passer peut-être quelque chose de phénoménal, mais.
Non, mais là, tout le but de ces entretiens confinés, c'est aussi d'établir une liste de lecture idéale, c'est-à-dire de s'éloigner un peu des livres que tout le monde devrait avoir lus pour aller vers les livres qu'on se passe comme des conseils précieux, discrètement, clandestinement. Donc là, je pense qu'on a fait une belle liste aujourd'hui, déjà. Voilà. Une liste, je pense que pour les gens qui vont lire ton roman, ça va être l'occasion pour eux de détendre un peu leur lecture après avoir lu ton roman. Et puis sinon aussi de se faire une petite liste de lecture pour le déconfinement. Voilà. Parce qu'après le déconfinement, ça sera l'été, l'occasion de lire sur la plage. Donc voilà. Claire,
J'espère
est-ce
que
qu'il
tout
y
le monde
a.
a bien préparé sa liste, parce
Oui.
qu'effectivement, moi aussi, je piaffe un peu d'impatience, j'ai beaucoup de livres à acheter.
Oui, moi aussi, mais rien qu'en t'entendant, je me suis dit effectivement, Moorcock, j'en ai pas lu depuis très très longtemps, et en plus, enfant, je l'avais lu en français, donc ça vaudrait le coup de le lire en anglais. Et Priest est un auteur que je connais quasiment pas, donc il faut enfin que je m'y mette. Et effectivement, aller chercher quels sont les autres titres de Maurice Ponce. Hein. Eh bien, Claire, merci beaucoup.
Merci à toi.
Je te dis à très bientôt. Et d'ici là, porte-toi bien.
Toi aussi, à bientôt.
À bientôt.